Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after qui continue avec vous tous pendant cette période sans football, uniquement sur RMC à la radio, bien sûr, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Pierre Ducron est là, salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Et Jérôme Rotten, salut Jérôme.
Salut à tous.
Je précise que Julien Cazard nous rejoindra pour le quiz tout à l'heure à 23h40. L'after toujours en radio-travail. Vous le savez, Daniel, Pierre, Jérôme sont chez eux à la maison. Et l'événement ce soir dans l'after, ce sont les présidents de Ligue 1 qui continuent de s'activer pour sauver les clubs et notre championnat. Nous allons débattre des dernières tendances avec pas mal d'infos dans quelques minutes. On vous attend au 32-16 pour en parler avec nous, bien sûr. Toute l'actu du jour également à suivre dans quelques instants. Et puis après 23h, Simone Rovera nous rejoindra. Une grosse actu italienne, avec des grosses rumeurs de transfert un peu dans tous les sens malgré l'arrêt complet du foot en Italie. Simone nous racontera tout ça tout à l'heure. Et puis on aura également Damien Perkis. Pourquoi Damien Perkis? Parce que c'est un grand fan de Jérôme Bretagne, figurez-vous.
Non, ça me fait rire parce que c'est pas généralement quand on est fan de quelqu'un, c'est un peu au même poste, tout ça, tu vois.
Ouais, mais parce qu'on s'est connu, moi je l'ai connu très jeune, il était au centre de formation de Troyes, il sortait de l'INF Clairefontaine et moi j'étais à Troyes. Donc
il s'est fait la même, il s'est décoloré les cheveux comme toi à l'époque. Il s'est dit, il faut que je sois comme Jérôme.
Je ne sais pas s'il m'a copié sur mon physique ou sur ma façon de jouer. Il nous le dira, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, on a des petites anecdotes très sympas. Je le ramenais par moments dans ma Porsche quand j'étais à Troyes. Lui était jeune au centre, donc
faire le tour de Porsche. Il avait 16 ans. Tu m'étonnes. Il devait dire attends, je suis où là.
Ça marque les plus jeunes. Hein. Écoute, J'aurais aimé à l'époque que des pros prennent soin de moi comme ça quand j'étais plus jeune, mais c'était pas le cas.
T'avais déjà une Porsche à 3, toi,
prendre soin de toi, c'est oui. Juste t'en accompagner en Porsche à la maison.
Non, attends.
Plaisir.
C'était un petit plaisir, et puis c'était une façon de lui rendre service aussi.
Alors, attendez, du coup, je vais vous raconter une autre anecdote, parce que vous savez que Jérôme, il est trop fort quand même pour se mettre les journalistes dans la poche. C'est ce qu'il faisait à Monaco? Il faisait faire des tours de Porsche à Doumé-Poulain. Je peux dire que Doumé-Poulain, il était comme un fou. Et après, quand Jérôme jouait, c'était le meilleur joueur du match. Quoi qu'il se passe,
il a fait un tour de Porsche. J'ai eu peur, dire qu'il monnayait les infos du vestiaire. Non, mais j'ai eu peur. Il ne va pas larguer ça comme ça. Quoi.
Il disait à Doumé, viens, on va faire 200 mètres dans ma Porsche. Et puis après, c'était gagné, tu vois.
Mais t'as pas honte de dire ça, non, franchement.
Attends, je comprends mieux.
Doumé me disait, j'ai besoin d'avoir des...
T'as eu raison, t'aurais jamais fait cette carrière sinon.
Déjà, j'aurais ramené quelqu'un d'autre que Doumé, parce que je pense que c'était pas le plus affluent des journalistes à l'époque.
Quoi, tu rigoles ou quoi? Mais Berlusconi dans l'after, c'est pas le plus affluent.
Oui, c'est vrai, ouais. Mais par contre, non, mais je faisais ça parce qu'il avait besoin de sensations fortes, parce qu'il voulait perdre du poids. Donc, je disais, bon, vas-y, de quoi on va accélérer en descendant à la Turbie et jusqu'à Monaco, et il kiffait donc de temps en temps.
Et justement, il avait rentré à pied s'il voulait perdre du poids.
Non, mais c'est dingue ça, le mec il kiffe parce qu'il fait un tour de bagnole aussi. On dirait un tour de manège, quoi.
Et pourtant, Doumé, vous le savez,
plaisir, hein.
Sa marque préférée de voiture, c'est pas Porsche.
Ah bah oui.
C'est Nissan.
Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan.
Voilà, excusez-moi, on n'a pas pu s'empêcher. Donc Damien Perkis tout à l'heure avec nous. Puis le quiz, hein, donc je l'ai dit également, le 32-16 ouvert pour tous les sujets du soir, le hashtag RMC Live, direct studio sur nos applis RMC, RMC Sport, bien sûr. Racontez là, votre week-end là, Jérôme, ça se passe bien ton confinement? T'es sorti?
Écoute,
ou pas? Toujours pas sorti?
Si, je suis sorti aujourd'hui, je suis allé faire des courses. Il fallait bien, vu que c'est quasiment impossible de se faire livrer, parce que t'arrives pas à avoir de date, il a fallu que je me mouille, et donc je suis sorti, je suis allé faire des courses, et puis je suis revenu.
Que tu te mouilles parce que t'as choisi le seul jour de la semaine où il a plu.
Ah oui, ouais, c'est pas malin.
Bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui. Oui, parce que après, je préférais le faire aujourd'hui, parce que
comme ça, il y a moins de monde.
Ouais, bon, il y avait quand même du monde. Hein. Je pense qu'ils se donnent rendez-vous là-bas, mais il y avait assez de monde. Mais bon, voilà, j'ai déposé quelques affaires aussi à mes parents parce que il faut les aider. Et je préfère moi prendre des risques plutôt que ça soit eux. Donc voilà.
Ça c'est. Oui, c'est bien. Bien sûr, c'est bien. Normal.
Pierre, ça va toi?
Tout va bien. J'ai fêté plutôt et célébré l'anniversaire d'un de mes deux associés avec une visioconférence.
On a soufflé
les petits. On avait chacun un gâteau. Donc j'ai deux associés. Donc avec celui dont c'était pas l'anniversaire, on avait un petit gâteau chacun avec une bougie. On a soufflé la bougie avec
le troisième. C'est mignon.
Notre troisième associé. Voilà, un anniversaire de confiné. Non, et puis voilà, on a passé le week-end au très bien, tout va bien. Tout va bien, on
a un peu de champagne quand même.
Là où c'est pratique pour Pierre, les gars, c'est que du coup.
Mais c'est quoi la marque de champagne, Pierre ?
Non, mais attends, écoute-moi, il a pu manger tout le gâteau tout seul, Pierre, du coup. Eh oui.
Ah bah là, je peux te dire qu'il en a pas laissé une part aux autres.
Hein. Non, parce que j'ai une famille quand même, Julien.
Ah ouais, mais ils ont pas eu le droit d'y toucher.
Je sais même plus ce que c'était manger le champagne. Je sais même plus ce que j'avais ouvert. Ouais, véridique. J'ai un petit caviste en bas de chez moi qui est très très bon et qui me fait découvrir des choses.
Hein. Pardon.
Ouais, en dessous
droit de l'after, oui.
À partir du moment où nous on a touché à ça, tu vois. Voilà.
Il y a des bons quand même. Hein.
Et toi, Daniel,
faire de mal avec votre.
Non, ça c'est sûr.
Le week-end a été un petit peu changé pour moi d'abord parce que j'ai pas bossé dimanche.
C'est vrai ça, qu'est-ce que t'as fait dimanche, Daniel? C'est pas possible.
Tu sais, avec le confinement, les gardes d'enfants sont un petit peu différentes et là je les récupérais après 15 jours. Donc voilà, c'était ça. Tournoi de poker néanmoins, mais ça c'était samedi et c'était la première fois que je faisais un gros tournoi. Avec il y avait plus de 500 joueurs. D'habitude, je fais des choses un petit peu plus petits. Et j'ai fait 20e sur 590.
Oh, bravo, ouais.
C'est une belle performance, mais malgré tout, il y a de la frustration parce que je sentais que je pouvais faire mieux. Donc, je suis ressorti un peu frustré. Et là, je me suis dit, je suis comme eux, je suis comme Pierre et Jérôme. Je commence à avoir une âme de compétiteur. Je ne me satisfais pas de la belle perf. J'en voulais plus.
Et voilà. Tu vas y arriver.
Voilà.
Tu verras que bientôt, tu mettras même le résultat avant la manière, tu verras. Tu penseras qu'à gagner.
C'est ce que j'allais dire.
Est-ce que tu sais que c'est.
Parce que là, t'es encore trop beau, en fait.
Alors, est-ce que tu sais que ces raisonnements-là et ces discussions-là, ça existe aussi au poker?
Ah oui,
c'est vrai?
Ben, bien sûr, il y a des façons de jouer.
Alors, est-ce que tu penses la même chose au poker qu'au foot, du coup?
Oui. Non,
mais il se regarde un peu.
Non, mais alors après la différence.
Tu veux dire que Bielsa au poker, il irait avec une paire de deux, il foncerait tête baissée.
Mais moi j'en connais des.
Il ferait tapis, il perdrait, tout le monde dirait bravo. Franchement, c'était beau.
C'est ça. Ouais, bravo. Bravo.
Moi j'en connais des Bielsa du poker, des joueurs qui sont hyper créatifs, qui sont agressifs. Absolument.
Bon, revenons au foot.
Et toi dernière question pour Daniel, quel type de joueur tu es plutôt?
Mais moi j'ai pas.
C'est
moi,
plus
j'ai
pas. René Girard au poker.
D'abord j'ai pas un super niveau, j'ai pas bien travaillé. Moi je dis toujours que pour bien jouer même au foot, il faut bosser. Il faut avoir envie de bosser, envie d'apprendre. Moi, au poker, je n'ai pas eu le temps, j'ai des lacunes. Comme je peux et je m'accroche. Donc, je suis plus un laborieux qu'un fantaisiste et un créatif, tu vois.
Messieurs, l'actu du jour, avant qu'on parle de notre Ligue 1 et du bal des présidents, là, avec notre nouvelle chronique célèbre déjà, Make Ligue 1 Great Again, ce sera tout à l'heure. Je vous signale que le Bayern a repris l'entraînement aujourd'hui. Alors les Allemands, ils y vont. Hein. Il y a quasiment tous les clubs qui ont repris, à l'exception du Werder et de Fribourg. Alors comment ça se passe? Ils s'entraînent par groupe de 5, avec des mesures de distanciation. Alors donc, je vous explique, ils arrivent à l'entraînement, ils prennent pas de douche ils prennent pas de douche au club, ils se lavent chez eux. En rentrant, ils sont dispersés dans différents vestiaires, avec à chaque fois 4 mètres entre eux dans les vestiaires, juste pour se changer. Ensuite, ils vont sur différents terrains, par groupe de 5. Pas de contact, interdiction de poignée de main, bien sûr, etc. Une séance où il n'y avait ni tacle, ni duel, et le club leur a même donné un panier repas à manger à la maison. Voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Bayern.
Ils font des jeux avec ballon quand même, ils se font des passes.
Bah, oui, bah, tu peux te faire une passe à 4 ou 5 mètres. Hein. Donc, y avait...
le virus qui se dépose sur le ballon, un coup de tête derrière, t'es foutu. Hein.
Ah, écoute, là, je ne sais pas si ce cas de figure a été.
On n'a pas encore d'informations sur les virus.
Alors, ils désinfectent le ballon à chaque passe.
On n'a pas encore ce genre de choses.
T'as raison. Bon, enfin voilà. Donc, en tout cas, les Allemands, eux, et bon, je rappelle que pour l'instant, les Allemands, en termes de combat contre le coronavirus,
c'est des groupes réduits quand même.
Par 5. Par 5,
pas plus.
Oui, on peut dire qu'ils se démerdent plutôt bien un peu en tout, les Allemands, il faut quand même reconnaître ça aussi.
Oui.
Bon. Écoute, voilà. En tout cas, tous les clubs ont repris et apparemment, ça ne fait pas plus polémique que ça en Allemagne.
Il faut juste espérer qu'ils n'aient pas à le regretter, quoi, voilà, que ce soit effectivement bien maîtrisé.
Alors, dans l'actu du jour, par ailleurs, Seferin, le président de l'UEFA, qui explique aujourd'hui que, selon lui, le titre ne peut pas échapper à Liverpool. Il dit, il appelle à trouver un critère pour désigner le vainqueur
Pourquoi il se prononce là-dessus? Tu veux dire qu'on lui a posé la question de l'arrêt des compètes ou de ce genre de choses-là, c'est ça?
Voilà, il dit, si les matchs sont joués, Liverpool gagnera, c'est quasi sûr. En revanche, si les matchs ne sont pas joués, il faut trouver un critère pour désigner le vainqueur. Et donc, lui, il ne voit pas pourquoi ce ne serait pas Liverpool dans ce cas-là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il envisage un peu tous les cas de figure, malgré tout. Dans les histoires du jour liées au coronavirus, je voulais vous raconter l'histoire de la plaque de champion de France de Reinald Denoueix. Alors c'est une histoire assez étonnante. Le gardien de l'équipe de France de hand, Cyril Dumoulin, qui joue à Nantes, a lancé il y a quelques jours des ventes aux enchères au profit des hôpitaux du CHU de Nantes, donc avec des objets sportifs. Donc ça a embrayé avec les footeux qui ont donné des maillots, des trucs à il y a les enchères en ligne et tout. Et là, Denoueix a dit, mais je veux participer, je vous donne ma médaille de champion 2001.
Ouais. On l'a dit hier, ça.
Je sens qu'il va la récupérer, sa médaille, moi.
Ah non, mais attends, sauf que hier, l'enchère
était pas. Je pense qu'ils vont le. Je pense que. Ouais,
mais non, vas-y. Mais ce soir.
Manger. Moi, j'aimerais bien que Gilbert, il écoute quand même quand il fait pas l'émission, tu vois.
Il s'en bat les rouleaux, en fait. Il est pas dans l'after, il écoute rien.
Moi, vous avez remarqué, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit, les amis. Moi, je le savais, parce que forcément, ça avait pas pu leur échapper.
Comment est-ce que vous avez la fin alors que ça s'est terminé ce soir à 21h?
Ouais, mais vas-y, alors comment c'est quoi la fin? Dis-nous.
Bon, à la fin, ils ont récolté combien? Parce que c'est ça que je vais vous donner comme
info. Plus de 10 000 euros.
12 600 euros.
Donc on est dans les clous. Et alors,
vous n'aviez pas ce chiffre?
Ça, on l'avait.
Vous n'aviez pas ce chiffre?
Si, on l'avait annoncé hier. Vas-y.
Non, c'était clôturé ce soir à 21h.
Vas-y, et dis-nous alors, qu'est-ce qu'il y a eu après?
Et donc, en fait, c'est les supporters, comme vous l'avez expliqué hier, sous ce côté-là, qui récupère sa médaille. C'est fait.
C'est génial, c'est vraiment une belle histoire.
Vraiment, bravo Gilbert.
Hier, je sais par ailleurs que hier, vous avez parlé de Serge Aurier.
Vous avez bien parlé de Serge Aurier.
Hier.
Oui. Et donc pourquoi Gilbert? Et alors Jérôme, Pierre, expliquez-moi pourquoi Gilbert tient à en reparler ce soir. Gilbert ne dit rien. Allez Jérôme, Pierre, selon vous pourquoi?
Je pense qu'il veut que Daniel, il veut que Daniel réagisse.
Voilà Jérôme, c'est toi le plus fort. Voilà, t'as vu comme. Non mais est-ce que t'as vu comme il est. Mais tu vois des fois je n'ai jamais. Ça fait 14 ans qu'on fait l'after avec Gilbert. Parfois, moi son vice. Et ben je le perçois pas parce que je me dis que ce gars-là est pur et en fait c'est là que je me rends compte parce que mine de rien ça n'arrive jamais qu'on fait pas l'after ensemble et donc je me fais avoir
Gilbert avant que tu continues, moi je mise une pièce Daniel sur le fait que ça va marcher, en plus tu vas démarrer.
Mais c'est parce que les gars, vous le savez bien, c'est Daniel dans son meilleur rôle, on pouvait pas passer à côté quand même.
Non, tu bien sûr. Gilbert, c'est pas propre ce que tu fais là, vraiment des
Donc,
tu veux quand même savoir ce que j'en
pense. Aurier veut finir sa carrière au PSG comme je sais pas, comme tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel?
J'en pense, au-delà du cas Serge Aurier, que les joueurs en général qui disent j'aimerais finir ma carrière là parce que c'est mon club de cœur, je dis ok, très bien. Quand c'est je termine à Niort, à Guignon ou dans un club. Mais quand tu dis je vais terminer dans un club de la dimension du PSG, c'est pas je vais terminer quand je tiens à peine plus debout parce que j'ai 35 ans. Dire ça, c'est à la fois. On comprend qu'il déclare sa flamme au club parce qu'il est supporter de ce club-là. Et en même temps, et c'est là qu'il comprend pas, et c'est toujours l'ambiguïté chez ce mec-là. Quand à chaque fois que je lis ses interviews, j'ai l'impression qu'il comprend pas toujours tout réellement, ou il a des réflexions un peu bizarres. T'as envie de lui dire, mais tu te rends pas compte que tu manques également de respect? Dans un sens, tu déclares ton amour, mais en même temps, tu manques de respect, en fait. Parce qu'on va pas finir sa carrière dans un club comme ça et tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu seras plus bon, quand t'auras plus de jus, quand t'as plus rien, ah, j'aimerais bien aller terminer ma carrière là-bas. Non, je veux dire, ça veut dire
non,
quoi,
je pense que c'est Daniel, c'est maintenant, comme... Daniel. C'est
et puis, pour, et puis, c'est pas parce que, et puis, c'est pas parce qu'on est supporter, et puis, c'est pas parce que, ben non, terminer sa carrière, il a dit Pierre, les mots. Et puis, c'est pas parce
oui,
que,
mais
t'es qui supporter
te dit que
d'un
si
club,
c'est 3 ans au PSG, après, il veut pas arrêter derrière.
Non, mais c'est pas parce que t'es supporter d'un club, que t'es légitime forcément à aller y jouer.
Non, c'est son rêve.
Jérôme, il peut encore aller jouer, là, non, s'il a envie, alors.
Pourquoi tu dis pas Pierre? Parce qu'il est pas affûté comme moi.
Pierre, il est agent. Mais non, mais Pierre, il est agent maintenant.
Ah bah justement, voilà, t'imagines, je m'y mettrais tout seul. Oh là là, double. Ah
ouais. J'ai eu raison d'en parler.
Dérange.
Jérôme.
Non, mais de quoi?
J'ai eu raison d'en parler.
Non, mais ce qui me dérange là-dessus, et on en a parlé hier, mais ce qui me dérange encore une fois, c'est. Après bon, j'ai dit ce que je pensais hier, mais c'est toujours la même réflexion. Les joueurs, il y en a plein qui te disent c'est le club de mon cœur, c'est le club. Ouais, mais le club de si c'est le club de ton cœur. Non, mais attends, moi je.
Si Schneiderlin veut venir à Strasbourg,
une chose à lui dire à Serge Aurier. Non, mais que ça soit le club de son cœur à Serge Aurier, comme certains. Moi, ça me fait rire parce que quand il a mis le maillot du Paris Saint-Germain, on l'a dit avec Pierre hier, il a été très bon. Assez vite. Après, il s'est perdu totalement.
Bon
comme...
assez vite,
non, vois, il a été bon. Il a été bon. Allez, vas-y. On joue sur les mots. Il a été bon. Il a été bon.
Mais il a plombé l'équipe. De quoi tu parles?
Non, mais il s'est perdu.
Avant,
au
départ.
Il s'est perdu. Laissez-moi finir. Il s'est perdu au fur et à mesure. Il s'est perdu au fur et à mesure. Et non. Je l'ai pas dit ça. Et quand il insulte l'entraîneur, quand il insulte le club, quand il insulte ses coéquipiers, là, il n'y a plus d'histoire, c'est mon club de cœur, c'est mon club voilà, de ceci. Parce que si c'est le club de ton cœur, eh ben, tu fais pas ce que t'as fait. Point final. Et donc, qu'il arrête de nous vendre du rêve, à, du moins, nous, je dis pas à nous, mais aux supporters du Paris Saint-Germain, en faisant semblant de dire, c'est le club de mon cœur, je veux finir absolument là. Quand il était, t'as pas été exemplaire. Alors, basta, c'est fini pour toi. Très bien. T'as gagné des titres à Paris. T'es parti, t'es à Tottenham. T'as préféré aller voir ailleurs. À l'arrivée, le niveau qu'il a à Tottenham n'a jamais été le niveau qu'il avait atteint au début au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il est sur la pente descendante et on arrête là, mais qu'ils arrêtent leur connerie avec le club de leur cœur. C'est facile aujourd'hui de dire que le Paris Saint-Germain est club de son cœur. Bah oui, vu les conditions, vu ce qui est réuni aujourd'hui au Paris Saint-Germain financièrement et tout ce que tu veux.
Il a envie de venir parce qu'à Tottenham il joue pas tout le temps. Selon les entraîneurs, on lui donne un peu de temps de jeu.
Allez, dossier suivant. Vous dire que la FIFA. Alors la FIFA, ils sont fantastiques parce qu'aujourd'hui ils se sont réveillés. Ils ont dit alors nous, on recommande des accords salariaux et des contrats prolongés. Bah, merci les gars, ça fait juste 15 jours pour du travail. Hein, donc la FIFA, si vous voulez vous rendormir. Ça ira. D'ailleurs, en Italie aujourd'hui, accord trouvé pour la baisse des salaires, donc accord général hein, pour l'ensemble de la Serie A, un tiers de la rémunération
accord
brute.
Général, donc ouais. T'es en train de me dire qu'il y a eu un accord entre les présidents, oui. Les joueurs, c'est costaud ça.
On en reparlera avec Simonet tout à l'heure. Mm-hmm. Alors c'est en fait accord un tiers de la rémunération brute, si jamais la saison est définitivement annulée, sinon ce sera un sixième du salaire. Et je rappelle une nouvelle fois, parce qu'on lit partout, la Juve, les joueurs de la Juve ont fait cadeau de 3 mois. Non, ils n'ont pas fait cadeau de 3 mois. Hein. C'est 3 mois qui seront payés sur la saison prochaine. Donc oui. Voilà, c'est différent.
C'est ce que je m'évertue à te dire, Daniel, depuis le début. C'est oui, que moi, ce tout que ce qu'on a pu. Oui. Non, mais attends, laisse-moi finir ma phrase. Tout ce qu'on a pu lire très très vite, notamment sur certains gros clubs, c'était loin d'être effectivement la réalité. Et ça a été à chaque fois des accords entre joueurs qui récupéraient derrière ce qu'il fallait. Là, l'accord collectif en Italie, effectivement, c'est quelque chose de concret et de bien.
Néanmoins, il y a un geste. Deuxièmement, il y a un accord entre les clubs, des choses importantes. Alors que chez nous, et on va en parler dans un instant, c'est pas qu'on est proche d'un accord. C'est que on est au-delà du bordel, tellement personne ne s'entend et ne réussit se mettre d'accord sur quoi que ce soit, Pierre. Moi, je veux bien que tu enfourches sans arrêt ton cheval de défenseur de la Ligue 1. Mais à un moment, il faut aussi que tu ouvres les yeux, Pierre.
À ce moment-là, je ne réagirai plus jamais si tu
parles là-dessus. Bien sûr.
Moi, je ne te parle même pas de la Ligue 1. Je te parle de l'étranger, Daniel. Pourquoi tu ramènes la Ligue 1? C'est pas ça.
Parce que j'aimerais bien qu'en Ligue 1, il y ait un championnat qui soit capable de se mettre d'accord sur quelque chose.
Déjà, collectivement, en Ligue 1, Ligue 1, il y a eu le chômage partiel qui a été appliqué partout, quasiment, avec une baisse de salaire automatique.
Ils ont respecté la loi, c'est formidable. Quel accord.
Oui, oui, voilà, déjà ça. Et puis le reste vient.
Gardez la Ligue 1. En Espagne.
Quand tu vois ce qui se passe ailleurs, tu
En Espagne, pendant ce temps-là, Casillas.
Pas partout, Daniel, justement.
Idée de Casillas, qu'on pourrait reproduire en France d'ailleurs. Casillas propose, pour relever des fonds, d'organiser un classico vintage. Caritatif, donc il dit voilà, quand tout sera ça fini là, faisons un classico vintage. Donc il a envoyé le message à tous ses anciens coéquipiers, à l'équipe d'Espagne notamment. Alors Iniesta a déjà dit ok, voilà, il veut organiser ça.
On va faire pareil avec le PSG Marseille.
On va faire un PSG OM vintage.
Alors non, mais c'est bien.
Ah ouais, je vais organiser ça moi, tiens.
Toutes les bonnes âmes et toutes les bonnes idées sont, mais j'ai l'impression que moi c'est une fausse bonne idée, parce que ça tu vas rassembler quoi avec un classico vintage, tu m'expliques, ça va sauver quel club? C'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut des fonds, mais on parle de millions. Tu vas sauver quoi avec un classico?
Et puis lui il veut faire ça une fois que la crise sera finie.
Oui, non, ça, ouais, c'est
en
sûr,
plus
c'est
et
sûr.
En plus donc c'est
Gareth Southgate, lui, en Angleterre, a accepté de baisser 30% son salaire de sélectionneur, puisque la fédération anglaise pourrait se retrouver avec un manque à gagner de 171 millions d'euros du fait de la crise du coronavirus. Sachez par ailleurs que Choupo-Moting est rentré en Allemagne, à Hambourg, sa ville de naissance. En Allemagne, les mesures de confinement sont bien moins strictes qu'en France. Puis en plus, ça dépend des villes et tout. Voilà. Et puis, nouvelle triste également liée au coronavirus. Sachez que la mère de Pep Guardiola est décédée aujourd'hui du coronavirus. Elle avait 82 ans. Voilà, dans la région de Barcelone. Et puis autre décès, mais celui-là qui n'est pas lié au coronavirus, celui de Radomir Antić, qui est décédé d'un cancer. C'est le seul entraîneur qui avait entraîné les trois grands clubs espagnols, Real, Barça et Atlético.
Atlético.
Radomir Antić, qui est sélectionneur également de la Serbie. Enfin bref, qui a eu une carrière d'entraîneur très très longue.
Et puis décédé d'un cancer, tu dis?
Oui. Et puis
d'accord, parce qu'il n'y avait pas la cause.
Bonne nouvelle par ailleurs, Rouchtou, c'est Rouchtou, l'ancien gardien turc. Et lui, il était hospitalisé.
Oui. Dominique.
À Istanbul. Dominique Rouchtou. Ça, c'est nul. Il est resté quand même 11 jours.
Il est encore bourré, Pierre.
11 jours à l'hôpital, mais il est sorti.
À proximité du frigo, entre
il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Tout va bien, en l'occurrence pour Rouchtou. Ah oui, et puis une dernière petite histoire. Vous savez, c'est la mode en ce moment, d'ailleurs RMC Sport l'a fait, nos amis de RMC Sport 1, 2, 3. La mode là, dans les clubs de foot, c'est de faire des petits matchs comparatifs et de comparer les joueurs en mode tableau de tennis. C'est-à-dire, nous on a fait qui est le meilleur dribbleur. Alors tu te retrouvais avec un tableau avec Mahrez contre Maradona.
Franchement, je trouve ça, mais ce sont des jeux que je n'arrive pas à comprendre et je trouve ça grotesque.
Moi non plus.
Je trouve ça ridicule.
Tout à fait, parce que comment tu veux comparer en fonction du tirage au sort, enfin bref, ça n'a pas de sens.
C'est difficile.
Et là, à l'OM, ça a fait des histoires, parce que le Fossé 1.
J'aime bien ces jeux.
Le Fossé 1, qui est un site bien connu, ils payent que le site, ils ont un podcast, ils ont plein de trucs à Marseille, ils ont lancé un truc comme ça pour comparer les joueurs. Et puis, on s'est retrouvé avec un duel Valbuena-Payet. Or, au vote des supporters de l'OM, c'est Payet qui a gagné. Et là, Valbuena, quand même un peu contrarié, il a envoyé son palmarès avec Marseille, c'est-à-dire trois Coupes de la Ligue, un titre de champion, un trophée des champions. Genre sous-entendu, bah, attendez, vous rigolez ou quoi? C'est quoi le palmarès de Payet?
C'est vrai qu'il a quand même un peu raison, quoi.
Ah, oui, mais bon, après, là on ne juge pas le palmarès.
Ah, je ne sais pas, c'était pas ce qu'il a apporté à l'OM?
Bah écoute, je sais pas moi.
Valbuena, jusqu'à preuve du contraire, apportait plus à l'OM que Payet.
De toute façon, c'est tellement con ce genre de jeu là.
Non, mais ça montre une fois de plus.
Ça crée quand même des crispations, tu vois. C'est bon.
Bah, crispations entre les joueurs, tu dis?
Bah là, Valbuena était un peu contrarié quand même, le garçon. Il s'est dit, attends.
Excuse-moi, mais putain, mais si t'es contrarié parce que sur les réseaux sociaux ou sur un journal, ils font des jeux comme ça, mais putain, mais il faut arrêter, les gars. Arrêtez tout, arrêtez de regarder.
Si demain je fais le même tableau Roland Garros et je mets Monterrubio contre Antenne et que les gens votent Monterrubio,
et alors, toi, tu vas dire. Et alors, mais je vais rien dire. Écoute, je dirais que les gens ont oublié et connaissent rien au football.
Ah ben voilà.
c'est donc clair. Je dirais le karting peut pas battre une Formule 1.
Voilà.
Ben oui. Non.
Tout à fait. Ouais.
Ces jeux-là sont toujours assez.
Passons à la suite. C'est tout pour l'actu du jour, en l'occurrence. Dans quelques instants, attention, Make Ligue 1 Great Again. On a plein de choses à vous raconter après ce qui s'est passé ce week-end et ce qui va se passer dans les jours qui viennent, dans donc les coulisses. Parce que là, depuis le début du confinement, en fait, il y a une catégorie, en tout cas, de professions dans le monde du foot qui s'active, c'est les présidents. Là, ils n'ont peut-être jamais été aussi actifs qu'en ce moment. On vous raconte ça dans quelques instants. Et le 32-16 est ouvert pour débattre, bien sûr. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rantel, avec Daniel Riolo, l'After, bien sûr, avec vous jusqu'à minuit. L'After qui continue 7 jours sur 7 pendant cette période sans match. L'idée, bien sûr, est qu'on passe un moment un peu sympa, hein, évidemment, et qu'on oublie un peu les problèmes de confinement du quotidien et la maladie de certains pour passer un bon moment ensemble. C'est ce qu'on va essayer de continuer de faire tout de suite dans notre nouvelle chronique. Make Ligue 1 Great Again.
D'autres voudraient avoir un montant plus pour plus.
L'équipe de France et la Coupe de France.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
To make America great again for all Americans.
C'est un provocateur, on sait très bien.
Il faut aller le plus loin. Pourquoi pas vraiment plus loin.
Au revoir.
J'adore ce jingle. Alors... Pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ça ce soir? Parce que les choses bougent en coulisses. Donc, on a appris qu'un groupe de 4 présidents emmenés par Nasser El Khelaïfi allait négocier chez Canal+, le paiement de l'argent que doit Canal. À ce propos, pour être tout à fait à la pointe de l'actu, et ça, vous n'avez pas pu en parler hier puisque c'était ce matin, Maxime Saada, qui était sur Europe 1, le propriétaire du Canal, le PDG.
Oui, le décideur, le boss.
Voilà, il a dit... Écoutez, c'est très simple. Quand on n'est pas livré, on ne paye pas. Voilà. Donc, en gros, on n'a pas été livré, les matchs ne sont pas là, donc on ne paye pas. Voilà ce qu'a dit aujourd'hui Maxime Saada.
Il y a toujours la question des matchs qui ont déjà été livrés, par contre.
Tout à fait, tu as raison. Là-dessus, pas de déclaration de Saada.
Une partie a été payée. Il y a une toute petite partie de ce qui a été joué qui n'a pas été encore réglée. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est l'info du jour concernant cette affaire. Mais on voulait quand même y revenir ce soir parce que finalement, il y a plusieurs choses qui font question. Et le point central, je sais qu'on en a parlé déjà ce week-end, mais enfin, on a de nouvelles informations et ça vaut le coup d'y revenir. C'est le fait que Nasser El Khelaïfi soit envoyé finalement en première ligne pour gérer le problème. Juge est parti ou pas, conflit d'intérêts. Ou pas, moi j'ai mon avis, je le donnerai tout à l'heure, et puis j'aimerais que chacun puisse donner le sien. Et Daniel, je vais te laisser d'abord développer, toi, ce que tu as envie de dire sur le sujet.
Si tu veux développer, on va commenter déjà cette première information, à savoir que c'est lui qui a été choisi.
Vas-y, démarre, quel est ton point de vue à toi? Conflit d'intérêt ou pas?
Mais, bon, d'abord, ça a été statué... d'un point de vue pas légal,
juridique.
Oui, juridique.
Voilà, Bois de la Tour a dit qu'il n'y avait pas.
Au début, Nathalie Bois de la Tour a été très réticente.
Voilà.
Moi, je la comprends.
Donc, d'un point de vue légal,
je pense que la Ligue est une assoce, donc c'est pas une entreprise privée. Donc,
maintenant, j'entends bien si toi tu dis qu'il y a ou qu'il n'y a pas.
Oui, je vais développer mes arguments après. Vas-y.
Bon, comment ça s'est passé? D'abord, les présidents ont décidé entre eux qui étaient les 4. Qui allait les représenter, donc River, Sadran, El Khelaïfi et c'est qui le quatrième?
Héro,
exactement. Ce sont les présidents qui ont dit Nasser, vas-y. Mm. Et Nasser a dit, El Khelaïfi, l'appelons pas par son prénom, a dit ok, j'y vais. Pourquoi? D'abord parce qu'on juge qu'il est compétent sur ses dossiers. Deux, qu'effectivement, comme tu le dis toi, jugé parti, il n'aura pas de mal à dire à Bein, allonge l'oseille, coco, parce que c'est pour tous les clubs et tous les clubs en ont besoin. Tu fais des deals avec Canal, t'en as fait notamment pour l'année prochaine, en vue de l'année prochaine, les matchs, Bein, machin, vous êtes en business. Vas-y toi. La situation est aujourd'hui tellement critique pour les clubs français que pourquoi ne pas envoyer celui qui maîtrise le mieux le dossier? Et qui sait, parce que d'abord une des chaînes lui appartient, même si la situation effectivement peut paraître un petit peu grotesque, et qui est en deal sur tous ces dossiers-là. Ça, c'est mon premier aspect selon moi. Et le deuxième, c'est ce que m'ont dit certains présidents, qui disent, moi je veux bien que sans arrêt on soit anti-Qatar, à dire qu'ils font ça pour leurs intérêts, que ceci, que cela. Ce qui est vrai, on sait tous. Mais tout le monde bosse pour ses intérêts. Tous les présidents bossent pour leurs intérêts. Et on me dit, mais Nasser El Khelaïfi, ça fait 8 ans maintenant qu'il est avec nous. C'est un mec qui fait partie de la famille du football français. C'est un mec qui s'entend très bien avec les Nicolins. C'est un mec qui s'entend très bien avec River. C'est un mec qui s'entend bien avec les mecs de l'OM. C'est un mec qui s'entend très bien avec Kayasso. C'est un mec qui s'entend avec tout le monde, qui est respecté et qui a envie de bosser pour, si c'est possible dans le cadre de cette affaire-là, sauver le football français. Pourquoi C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi on lui aurait dit non? Le mec, s'il y a un mec aujourd'hui, qui est à l'écart, qui n'a pas été consulté, et en qui plus personne n'a confiance dans le football français, c'est Jean-Michel Aulas. C'est plus ça le débat. Moi, quand on me dit, tu ne fais qu'attaquer Aulas, tu ne fais qu'être contre lui, tu veux... Mais arrêtez avec vos petites bricoles partisanes. Je m'en fous, moi. Je suis probablement celui qui, depuis 8 ans, a le plus critiqué la gestion El Khelaïfi au PSG. Je ne suis là que pour observer, me renseigner sur ce qui se passe en coulisses et raconter à vous ce qui se passe. Il y a un mec en qui plus personne n'a confiance dans le football français et qui a été écarté de toutes ces discussions, c'est Jean-Michel Aulas. Pour sa prise de position pré-débat au mi-mars sur la saison blanche.
Oui, ça a fait mal quand même.
Plus, alors qu'on pensait que c'était en train de se tasser, interview avant-hier qui a fait dégoupiller trois quarts des présidents, ouais. Quand il dit, ah, c'est vrai qu'on se rapproche peut-être encore plus d'une non-reprise du championnat.
Alors, il a été assez prudent quand même dans cette interview d'hier. Moi, je l'ai lu vraiment avec attention.
Mais la prudence, je peux t'assurer.
Il s'est pas bouillé quand même.
Mais néanmoins, ça a cassé les bonbons de tout le monde. Je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va réussir à être unis là-dessus? Il faut absolument que ça se termine d'une façon ou d'une autre, en août, en septembre, par rapport à cette oseille. Parce que, à un moment, Gilbert aussi, une fois que tout le monde aura donné son point de vue, il va quand même falloir mettre des chiffres dans les cases, savoir ce que ça veut dire, les droits télé. La survie pour les clubs.
Pour les gros clubs surtout d'ailleurs. C'est ça qui est assez paradoxal. On en parlera tout à l'heure effectivement avec les chiffres.
Paradoxal, pour les petits clubs, c'est une question de vie ou de mort, hein, de quoi tu parles.
Attends,
c'est à la limite celui qui s'en tire le mieux sans droit télé. Celui qui s'en tire le mieux, c'est Paris, c'est même Lyon. Mais alors que Paris est prêt à tout faire pour aider les autres, pour que finalement ils les touchent, t'en as un qui dit, bah, si moi dans un match je mets un but, mais qu'on perd, c'est pas grave. Si les autres, il y en a quelques-uns qui crèvent, et que moi, de toute façon, je peux m'en sortir parce que les droits télé dans mon budget, c'est un peu plus de 100 millions. Donc, néanmoins, tu vois, c'est quand même important. Mais vu que j'ai bien bossé des années, moi, je pourrais m'en sortir. C'est pas grave si j'en laisse sur le carreau. Tu crois que ça passe auprès des autres présidents, ça? Et attends la dernière qui s'est passée. Quand Seferin a commencé à parler du fair play financier, qu'on allait le mettre en sourdine et tout. T'as un président français qui a dit « Ah ouais, mais pourquoi ?» D'après toi, qui est celui-là qui a dit « Pourquoi ?» Sachant que ça ferait chier l'OM et que ça pouvait mettre l'OM à la rue.
Oui, bon, on a la réponse. Hein.
Ouais, bon, ben voilà. Voilà.
Alors, je reviens sur le point de départ. El Khelaïfi. Pierre, pour toi, conflit d'intérêts, problème d'image dans cette histoire ou pas?
Non, il y a pas. Enfin, pour moi, il y a pas de conflit d'intérêt. Et puis, de toute manière, c'est. Enfin, qu'est-ce que ça change, comme l'a dit Daniel, à ce qui se pratique depuis des années maintenant et ce qui s'est toujours pratiqué dans.
À l'époque Canal, tu veux dire. Cas...
Mmh. Ouais, non. Et puis voilà. Et puis moi, j'ai Canal, il y a
des histoires qu'on peut raconter sur les droits télé aussi. Hein.
Ouais, aussi. Et puis, enfin, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit dans un contexte où qui que ce soit et Nasser en tête se serve de ça pour faire quoi que ce soit d'autre que d'essayer de effectivement sauver un peu le navire, quoi, pour tout le monde. Donc c'est un faux débat qu'on lui fait. En tout cas, moi, ou alors je suis pas assez intelligent ou naïf, je sais pas. Mais
c'est moi qui vois le mal partout. Je vais développer mon idée tout à l'heure. Jérôme, ton avis à toi.
Est-ce qu'on a le droit aussi de considérer qu'après toutes ces années, ils s'entendent bien avec d'autres présidents veulent lui faire confiance et que c'est pas uniquement le diable incarné qui est venu pour ses intérêts. On sait bien, tout le monde le sait, mais tout le monde défend des intérêts. Évidemment que le Qatar défend des intérêts, mais il n'empêche que sur les deux.
Attends, tu t'as pu t'exprimer.
Jérôme,
ton avis à toi.
Écoute, oui, ça peut paraître surprenant. Moi, ça m'a surpris hein, de voir que Nasser faisait partie de ces quatre-là, sachant le rôle qu'il a à Bein et que Bein est dans la même situation de Canal. Après, qu'il y ait des conflits d'intérêts ou pas, je pense que Daniel a bien résumé. Nasser, il n'est pas arrivé hier dans le championnat de France. Je pense qu'il y a de la complicité qui s'est créée avec d'autres présidents. Il a un rôle très très fort et ça se voit parce que sinon il serait pas dans ces quatre présidents-là.
Choisi par les autres.
Choisi par les autres. Ouais. Et puis en plus, ce qui est, on peut voir tout noir. Mais moi, j'ai envie de croire que de toute façon, il est là aussi pour le bien du football français, pour défendre les intérêts de tous les autres présidents, comme les trois autres qui sont
et
avec
après
lui.
Après, on donnera les chiffres, Jérôme, parce que tu vois ce que tu dis, c'est très bien, mais je compléterai ce que tu dis par des chiffres concrets sur finalement ceux qui disent on peut s'en sortir si le Qatar n'était pas là, sans le PSG, les droits télé.
Non, mais
on va dire ce que ça représente. Et mais si oui, certains clubs qui disent qu'on ne fait que, excusez-moi entre guillemets, sucer le Qatar, on va voir eux qui ne veulent pas reconnaître. Moi, je vais leur expliquer ce que serait sans l'appel d'offres de Bein la dernière fois et sans Mediapro qui a cassé la tirelire pour voir jouer Neymar. Je vais leur expliquer quel serait le budget de leur club.
Jérôme conclut.
Pour voir contre qui ils gagneraient en Coupe d'Europe.
Mais moi
à ces supporters-là qui ne veulent pas comprendre.
Là-dessus, je rejoins aussi Daniel parce que c'est sûr que après on peut toujours critiquer les nouveaux investisseurs, du moins les nouveaux. Maintenant, ça fait un bout de temps que le Qatar est là, mais bon, ils ont fait énormément de bien au football français dans tous les cas, et que le fait qu'il ait ce rôle-là aujourd'hui, Nasser, c'est aussi ça montre le rôle que peut avoir le Qatar dans cette crise, du foot qui va avoir lieu. Et je très honnêtement, j'ai envie de croire, et je pense qu'il est assez honnête là-dessus pour défendre les intérêts de tout le monde et pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, tout simplement. Donc arrêtons de voir le noir partout. Il faut croire à ces quatre présidents qui vont être là pour essayer de faire avancer les choses. Et puis la petite parenthèse, c'est que aussi j'ai lu l'interview de Jean-Michel Aulas, et tu sens à travers son interview qu'il est quand même très très déçu de ne pas être dans ces quatre-là.
D'ailleurs, à propos de l'interview, Jérôme, il y a un truc, je ne sais pas si vous l'avez bien noté, il a quand même dit à la fin de l'interview, il dit, mais vous savez, il y a quand même une tutelle qui peut intervenir.
Oui,
c'est
en
la
plus,
fédération. C'est... Or, qui est vice-président à la fédération?
Ben, c'est lui.
Eh ben, c'est Bibi.
C'est lui.
Il est fort.
Alors, non, j'ai bien aimé la phrase surtout sur Noël Le Graët.
Maîtriser
de main de maître par Noël Le Graët, il a dit.
Alors, Aulas dit un truc intéressant, quand même, sur le choix de Nasser Al-Khelaifi. Et en fait, moi, c'est ça que je retiens avant tout. C'est pourquoi est-ce qu'on envoie Nasser Al-Khelaifi au front? Parce qu'avec Nasser Al-Khelaifi, finalement, il y a obligation de résultat, il y a obligation de versement d'argent.
Sûr.
Pourquoi?
Bien sûr.
Vu qu'il est jugé parti, il peut pas arriver en disant, parce que il peut pas arriver en disant, écoutez les gars, moi j'ai échoué avec Canal, vous toucherez pas l'oseille. Et puis avec Bein Sport, j'ai fait une réunion avec moi-même. Je me suis mis un miroir devant moi. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses? On paye ou pas? Le miroir répond, ouais, on paye pas. Ouais, on peut payer.
C'est ce que j'expliquais vendredi quand on a fait l'émission vendredi. J'ai exactement dit ça. Je te suis à 100%. Évidemment.
C'est stratégiquement assez malin.
Mais c'est malin, mais c'est normal en fait.
Ouais, c'est normal.
Maintenant, moi, il y a quand même, ça me pose quand même un petit problème.
Ouais, mais à l'arrivée, si c'est ça qu'il faut pour sauver le football français, tu vas l'accepter.
Alors déjà, moi, ça me pose plusieurs problèmes. Je vais vous expliquer lesquels. Déjà, ça me pose un problème que ce soit pas un représentant de la Ligue, en l'occurrence Didier Quillot ou Bois de la Tour, qui aille en première ligne. Parce qu'en fait, c'est pas des personnes neutres, si tu veux, qui y vont. Voilà, c'est le PSG qui domine déjà sportivement, économiquement le foot français. C'est l'OM qui est juste derrière. Il y a Lyon, bon voilà. En l'occurrence, on le sait pas. Mais voilà, moi j'aurais voulu quelqu'un de neutre. Et que derrière, Nasser Al-Khelaifi joue son rôle. Mais je veux dire, un peu en backup, c'est-à-dire sans forcément monter au front. Parce que Nasser Al-Khelaifi, quand il nous dit, ouais, mais moi j'y vais, je suis président de club. Ça va, nous prends pas pour des blaireaux non plus. On sait très bien pourquoi tu vas toi et on sait très bien pourquoi on t'a envoyé toi. On vient de l'expliquer en long, en large, en travers. Donc moi ça me pose quand même un problème. J'aurais bien aimé que ce soit Kyo qui dit attendez les gars, moi je le prends sur moi. Vous allez m'aider, mais au niveau de la com, on va dire que c'est la Ligue et la Ligue qui est neutre, qui gère le championnat et c'est elle qui doit y aller. C'est pas des présidents. Choisi peut-être au machin qui doivent y aller, ça envoie un très mauvais signal.
Sauf que la Ligue,
oui, mais alors attends, je vais t'expliquer un truc à ce sujet.
Et je pense ne pas me tromper en disant que ça n'avance à rien du tout, quoi.
Voilà, Pierre, je vais vous expliquer quand même un truc. Dans le dernier appel d'offres qui a été donc emporté en grande partie par Mediapro qui a mis l'oseille, ça a brouillé le rapport entre la Ligue et Canal.
Canal a pris ça un peu comme
ils sont bien sortis quand même Canal au final, donc
mais sur le coup sur le coup ils l'ont mal pris, le côté vous avez trouvé la poule aux œufs d'or, vous avez tout fait, alors que excuse-moi mais c'était dans le rôle de la Ligue, et je pense que Didier Quillot a parfaitement bien travaillé. Lui, son rôle, c'est de faire rentrer de l'oseille pour les clubs et de faire en sorte que cette Ligue 1 soit plus riche, parce que on imagine par la suite plus compétitive. Lui, il a parfaitement fait son job, Quillot. Que Canal derrière vienne dire vous nous avez maltraité en considérant uniquement le nouvel arrivant et nous l'ancien, vous nous avez un petit peu, enfin bref, justifié ou pas justifié, hein, moi je suis pas là pour me prononcer là-dessus, comme sur rien, hein, moi comme je dis depuis le début, je ne fais que raconter ce qui se passe. Canal, LFP, le rapport est brouillé. Il y a un truc qui passe pas bien et ça explique pourquoi il y a eu ce court-circuitage des présidents qui ont dit oula, là, on va reprendre les choses en main. Nasser, vas-y et sauve-nous.
Mediapro, voilà. C'est pas la faute de la Ligue, hein. C'est juste que Mediapro, ils ont fait des offres plus fortes.
C'est ce que je t'ai dit. Canal, je t'ai dit que la Ligue, elle a parfaitement travaillé. Elle a été chercher le plus offrant.
Canal a raison d'être énervé contre la Ligue.
Enfin. Mais je te dis pas qu'ils ont raison. Ouais. Je te dis que le rapport est brouillé. Je te dis pas qui a raison, qui a pas raison. Mon but depuis le début n'est pas de dire qui a raison, qui n'a pas raison. C'est d'essayer d'expliquer.
Moi, il y a un autre point. Il y a un autre point sur Nasser Al Khelaïfi quand même. Bon, moi, j'ai rien contre le Nasser Al Khelaïfi en tant que tel, ça m'est égal. Mais il y a quand même, on a aujourd'hui développé, le foot français a développé quand même une dépendance au Qatar qu'il faut quand même qu'on mette sur la table.
Mais bien sûr. Absolument.
Aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le foot français dépend d'un émir qui un jour peut se lever un matin et dire bon, non, finalement, maintenant, on arrête. Je sais pas, je vais m'occuper de développement de l'art ailleurs ou j'en sais rien. Je veux dire, c'est quand même incroyablement inquiétant. D'avoir une dépendance aussi importante.
Parce qu'il faudrait qu'il y ait deux choses qui sont inquiétantes. 3, 4, 5 clubs comme ça en France.
Et lui, Nasser Al Khelaïfi, il représente ça. C'est un type qui est rarement en France, qui a 1000 casquettes par ailleurs. Je veux dire, voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui sa priorité absolue? Et c'est ce gars-là qu'on envoie au front?
Non, mais alors. Bon, d'abord,
ça, moi, ça m'inquiète.
Non, mais d'abord, tu l'envoies pour sauver. Après, ton inquiétude, on peut la comprendre. Il se trouve que dans l'avant-dernier appel d'offres, déjà Bein, en mettant beaucoup d'argent, a permis à la Ligue 1 de s'enrichir. Dans le dernier, ce qui a fait casser la tirelire, c'est les stars qu'il y avait au Paris Saint-Germain.
Oui, tu veux dire donc indirectement le Qatar, c'est ce que tu veux dire.
Ça tient, de toute façon, aujourd'hui, le foot français tient sur deux mamelles. Les droits télé et... comment on appelle ça, le mercato, quoi, le trading de joueurs. La situation actuelle, pourquoi elle est très compliquée? Bah parce que on ne sait pas si le mercato va permettre aux clubs de vendre les joueurs qu'ils ont l'habitude de vendre, et en gros de rentrer assez d'oseille dans cette affaire-là. Et ensuite, à côté, si les droits télé, en plus, tu as un trou de ce côté-là, tu as plein de clubs qui sont au bord. Pas de la faillite, mais de gros soucis financiers. Donc après, pour en revenir à la dépendance, bah oui, mais tu dis que c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter, en fait? Il faudrait souhaiter quoi? Il y a des clubs qui ont développé leur modèle. Enfin, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la situation du football français dans son ensemble. Aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, comme j'ai l'expliqué mille fois dans l'after, le problème, c'est que les projets sportifs en Ligue 1, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Le reste, c'est les droits télé pour faire tourner la boutique. Et le trading de joueurs pour enrichir les proprios, les fonds d'investissement qui sont venus et tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est notre football qui est en péril. C'est notre football qui fonctionne comme ça maintenant. Nous, on peut toujours dire c'est inquiétant. Il se trouve que c'est comme ça.
On devrait s'inspirer du modèle allemand peut-être. Enfin, maintenant, revenir en arrière.
Mais encore faudrait-il. Mais il faudrait qu'on ait des présidents qui développent des projets sportifs. Tous ces investisseurs.
On en parlera demain parce que peut-être que cette crise peut accoucher de quelque chose de nouveau. Ce sera un des sujets de l'affaire de demain soir.
Encore faudrait-il être assez intelligent pour que ça accouche de quelque chose. J'ai du mal à y croire parce que notre Ligue 1, il n'y a pas assez de gens qui développent des vrais projets, quoi.
Alors après, il y a un truc que j'aimerais quand même développer, moi, c'est les diffuseurs. Canal, Bein, qui aujourd'hui doivent payer. Il y a un truc que je comprends pas dans leur démarche, en fait. Parce que, bon, ils payent pas, là. Mais enfin, ils ont pas non plus proposé à leurs abonnés d'arrêter les abonnements. C'est-à-dire de dire, bah attendez, on vous propose, nous, que vous arrêtiez de payer. Tu vois ce que je veux dire?
Ça aussi, je l'ai dit. Ça pourrait très bien monter en contrepoids les abonnés qui disent...
Mais justement...
Non seulement vous faites couler notre Ligue 1...
Mais Canal va te répondre que ce n'est pas l'offre Canal n'est pas uniquement le championnat de Ligue 1.
Très bien. C'est quand même en partie. Donc l'abonné, il peut dire, j'enlève sur les 20 balles, j'enlève 10 balles.
J'enlève 5 balles,
ouais,
voilà.
Mais si j'étais dans la de Canal ou de Bein, on pourrait développer une stratégie différente, une stratégie marketing intelligente, en disant, mais regardez, on va payer. Et en fait, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens? On va leur dire, écoutez, qui c'est qui sauve votre Ligue 1, qui c'est qui sauve vos clubs là ? Eh ben c'est nous. Et alors on va établir un partenariat entre les clubs et nous, entre vous, nos abonnés, et nous, les diffuseurs, Canal, Bein, et on va ensemble sauver la Ligue 1. Ben moi, le mec qui me fait ça, moi qui paye mon abonnement, je lui dis, attends, il a sauvé mon club lui, mais moi je me réabonne.
Tu sais comment ça s'appelle,
et là je suis prêt à payer. Pourquoi ils font pas ça ? C'est quand même mille fois plus intelligent que de dire ah bah non, je suis pas livré, je paye pas. Enfin, franchement.
Mais c'est pas de la com, Gilbert, c'est ce qu'on appelle la solidarité, justement. C'est ce qu'on demande à un seul acteur dans le football.
Et en développant moment, cette solidarité, cette stratégie marketing, ils en sortiraient grandis. Oui.
Mais personne d'autre n'est solidaire à part les joueurs qui commencent à l'être et qui au fur et à mesure, comme le disait Daniel, dans certains pays s'organisent, etc. Mais les autres acteurs du football, vous en avez beaucoup qui sont solidaires avec les entre clubs, entre championnats, entre pays, etc. Non, j'en vois pas beaucoup. Mais entre diffuseurs, des diffuseurs avec des championnats, avec des ligues, non, moi j'en vois pas beaucoup, effectivement.
Bah voilà, bah je pense que celui qui le fera, il en sortira grandi. Maintenant, bon. Je sais pas. Apparemment, c'est pas ça parle d'être à l'ordre du jour. On va faire une courte pause et ensuite on accueille Grégory pour qu'il donne son avis et puis ensuite on parlera.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un paquet de Lyonnais font qu'interpeller tout le monde sur Twitter en disant arrêtez de dire que le Qatar sauve la Ligue 1, qu'ils viennent nous donner leurs arguments. Comme ça, je vais leur donner les chiffres et puis ils pourront peut-être comprendre comment ça fonctionne réellement en fait.
Bah, qui nous appelle?
Voilà, bah j'aimerais bien.
Tiens, Grégory.
Plutôt que de s'exciter comme des malades sur Twitter.
Salut Grégory, toi tu es supporter de Paris. Hein.
Bonsoir ouais. Grégory.
Désolé, je ne suis pas lyonnais.
Pas de problème.
On voulait un lyonnais, salut.
Quand t'entends tout notre débat là, tu te positionnes comment toi? T'en penses quoi?
Alors Gilbert, t'as dit le mot exact, partenariat. Canal+ a longtemps fonctionné en étant le partenaire de la Ligue 1.
C'est vrai.
Sauf que la Ligue 1 a décidé de faire du business.
C'est vrai.
Et de céder les droits aux plus offrants. En retour, c'est logique que Canal dise « je ne suis plus le partenaire, je fais du business ». Et moi, j'ai une faille juridique qui fait que je peux, même grâce à cette faille juridique, même ne pas payer les matchs qui ont été diffusés parce que le produit qui est 38 journées n'est pas livré en l'état. Ben, Canal+ dit « ok, ben, je dois me sauver, je dois économiser de l'argent, et ben, je vous emmerde ». De toute façon, si la Ligue 1 est dans la merde, moi, Canal+, sur les 38 prochaines journées de la saison d'après, j'ai le premier choix sur 28 matchs, c'est-à-dire PSG. Et donc, si les autres clubs sont dans la merde, c'est Mediapro qui est dans la merde. Or, Canal+, ben, si Mediapro est dans la merde, ils sont contents.
C'est vrai.
Bon, oui, effectivement, parce que ça pourrait même déboucher sur un nouvel appel d'offres. Hein. Et qui c'est qui pourrait sortir vainqueur ? C'est les acteurs existants, en l'occurrence.
À Canal, qui pourrait même racheter beaucoup moins cher.
Exactement.
Et un autre truc de l'affaire Elfred Haïti, c'est qu'en fait, Canal+, qui est brouillé avec la Ligue 1, il y a une espèce de petite alliance de business, plus que ça, entre Bein Sport et Canal.
Exactement.
Donc Nasser Al-Khelaifi, c'est un peu la personne qui est chargée de ressouder les liens parce que lui, il est des deux côtés.
Bon, donc toi, t'estimes que ce qu'on a dit, c'est stratégiquement bien joué de l'avoir envoyé lui, finalement.
Ouais. En fait, on s'en fout que ça soit quelqu'un d'autre. Il faut que ça soit celui qui a le plus de chances de gagner.
Absolument. C'est une très bonne phrase, ça.
Voilà. Bon, bah écoute, Grégory, très bien. Moi, tout de même, il y a aussi autre chose que j'ai pas développé, c'est ce que ça va engendrer dans les concurrences entre clubs et notamment dans les tribunes. Parce que vous savez que bon, entre Lyonnais et Marseillais, c'est tendu. Là, je parle des supporters, hein, Parisiens, Marseillais, Parisiens et Lyonnais et tout. Ça va très vite. Hein. C'est pour ça qu'on fait aussi de la pédagogie un peu dans l'after en expliquant le truc. Mais demain, si c'est mais regardez, tu vois, les Marseillais, les Lyonnais, les Stéphanois, je sais pas, les Bordelais qui disent mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est le mec du PSG qui y va? Et pourquoi c'est pas le nôtre? Et pourquoi le nôtre il y est pas?
Parce que sinon, t'es mort, quoi.
Voilà. Nasser, là, c'est la peau de l'OM là, hein, qui est en train d'être sauvée parce que eux, ils sont vraiment dans la merde. Hein.
Il y a aussi Héros dans le groupe, hein, quand même, hein, rappelons-le.
Ouais.
Alors, Daniel, tu voulais enchaîner sur quelques chiffres.
Tu veux dire sur les
Grégory, fameux. Reste avec nous si tu veux.
Ça marche.
Sur les fameux droits télé, est-ce que ça représente? Parce que il y a quand même un dossier qu'on n'aborde jamais dans ces droits télé, c'est le côté aussi européen. Vous savez que les droits européens ont beaucoup augmenté dans le dernier appel d'offres. On en sait quelque chose.
Dans des coupes d'Europe, tu veux dire?
Les Coupes d'Europe. Ouais. Pourquoi j'ai dit quoi?
Parce que les droits européens, ça pourrait être les droits de la Ligue 1 ailleurs.
Les Coupes d'Europe. Et on sait qu'ils ont beaucoup augmenté. On en sait quelque chose, nous, puisque c'est la maison mère qui les a payés. Voilà. Donc, on sait très bien.
D'ailleurs, qui a payé la totalité de la saison, je le précise.
Voilà.
On n'est pas dans le cas de Canal ou de Bein par rapport à la Ligue 1. Tout a déjà été payé.
Et qui a offert, je crois, 2 mois d'abonnement.
Mais on est aussi en droit de se demander ce qui se passe si la Ligue des Champions va pas au terme. Les diffuseurs dans les différents pays vont peut-être sortir du bois en disant attendez, on a peut-être déjà payé, mais vu que le produit on l'a pas eu, des recours juridiques doivent certainement exister. On n'en est pas là.
Peut-être.
Parce que aussi, Seferin a immédiatement été très clair.
nous irons au bout. Même si ça doit, la finale à la Ligue des Champions doit se jouer début septembre et qu'on doit entamer 15 jours après le début de la nouvelle phase de poule, on ira au bout. Donc, personne n'a bougé. Et les diffuseurs qui sont propriétaires des droits des Coupes d'Europe, pour l'instant, n'ont rien réclamé. Donc ouais, les droits, moi je voulais indiquer, parce qu'on en parle souvent, et tous les chiffres, comme il y a le rapport de la DNCG qui est sorti là, il y a 15 jours maintenant, par exemple, pour un club comme le PSG, le PSG touche plus d'oseille de droits télé via l'Europe que via la Ligue 1. C'est 60 via la Ligue 1, 90 via l'Europe, 156 au total, dans un budget conséquent comme celui du PSG, c'est qu'un budget estimé à 600 millions, ça reste quand même important.
C'est moins d'un quart quand même des revenus du PSG.
Pour l'OL, vas-y. 70 millions droits européens, entre 48 et 50 de droits Ligue 1, 120 au total sur un budget estimé à 250, ça fait quelque chose d'important quand même. Tout pour l'OL. Ouais. Donc ils ont quand même intérêt à ce que les droits européens, quand ils disent nous on est autonome avec le boulot qu'a fait notre président depuis des années, sur les 71 de droits européens, cher Olympique Lyonnais, le diffuseur européen il paye beaucoup si il n'y a pas le PSG en Coupe d'Europe. Il paye principalement pour diffuser le PSG ou pour diffuser Lyon, notre maison mère, d'après vous, en termes d'attractivité? Donc bon, à un moment, il faut aussi être un petit peu lucide, il faut les arrêter, les petites guéguerres. C'est pour ça que je dis toujours, unissez-vous sur le terrain, qui est la rivalité, évidemment. Mais en business, toutes les phrases à répétition, répétées, tout le temps, pour attaquer le PSG. Moi, je veux bien, à un moment, je ne dis pas qu'il faut se mettre à genoux. Il faut juste, au minimum, mettre un peu les critiques en sourdine de temps en temps.
Alors Grégory, toi, l'histoire de la Qatari et dépendance, là, t'en penses quoi? Ça t'inquiète aussi ou ça te gêne pas?
Disons que...
Je t'en parle de l'ensemble de la Ligue 1.
C'est un fait. C'est le problème, c'est que la Ligue 1 ne peut pas gérer autrement. S'il n'y avait pas la Qatarie dépendance, la Ligue 1 serait quasi morte. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Et effectivement, si RMC paye beaucoup pour la Ligue des Champions, c'est pour le PSG. Le choix 1, c'est toujours PSG. Quand il y avait à l'époque un choix 2 entre Canal et Bein, le choix 1, c'était PSG.
Les médias pro, s'ils ont mis 1 milliard, c'est pour Neymar Mbappé ou pour Renan Delahi Dembélé?
Historiquement, il y a eu un choix 1 à une période, c'était Marseille. Il y a eu un choix 1 à une période, c'était Lyon. Maintenant, c'est le PSG. Voilà.
Aujourd'hui, quand on voit les affiches qu'il y a en format 4-3 dans les rues, on voit pas de Lyonnais, on voit Neymar, on voit Mbappé, et limite on voit.
Attention, parce qu'il y a des coms régionales. Hein. Donc ce que tu vois à Paris, c'est pas forcément ce que tu vois à Lyon ou ce que tu vois ou à Lille, en l'occurrence pour cette année. Tu vois dans les.
En tout cas, on voit les Parisiens plus des joueurs étrangers, mais on voit pas de joueurs lyonnais.
Grégory, merci en tout cas. Et c'était clair.
Mais en termes d'attractivité, de toute façon, on sait que le diffuseur européen, ce dont il rêve principalement, c'est qu'il y ait les trois en Coupe d'Europe, ça c'est sûr.
Les trois, tu veux dire PLM?
Le PLM, et on sait que c'est Paris, Marseille et Lyon.
Oui, c'est ça qu'on veut. Les trois qui drainent le plus d'abonnés.
Et c'est Paris, Marseille et Lyon qui est encore un petit peu derrière, il ne faut jamais l'oublier ça. Il y a ces attractions.
D'ailleurs, il y a juste à se référer à la dernière tranche de droits télé qui doit être payée en fonction de justement la notoriété, enfin la diffusion de ces
clubs.
Le PSG, c'est les premiers avec, je crois, plus de 16 millions, et ensuite c'est l'OM, et après c'est Lyon uniquement.
D'ailleurs, ce stade de la discussion, Frédéric Antonetti veut intervenir.
PLM et toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Et d'ailleurs, Daniel, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas réagi parce qu'on n'avait pas le temps, ça allait couper. Mais pour les petits clubs, tu disais pour tout le monde, c'est catastrophique. Mais pour les plus petits clubs, ou en tout cas ceux qui ont été moins diffusés,
il y en a qui ont déjà touché l'oseille.
Ouais, voilà,
il y a, grosso modo, leur budget est principalement droit télé. Le budget des petits clubs,
mais quand t'as encaissé entre 90 et 80% déjà de ces droits télé,
c'est pour ça que sur la dernière tranche, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que sur la dernière tranche, c'est les clubs les plus puissants qui sont les plus concernés.
Sur la dernière tranche, c'est 12 millions pour l'OL et c'est genre pour Brest un petit million. Donc on va on, donc quand, quand après
donc c'est plus facile pour le Saint de dire ça que pour Héro, par exemple.
Après j'entends certains Lyonnais dire ouais Riolo dit que Nasser va sauver la l'OL ou la Ligue 1 pour les 12 pauvres millions, mais c'est pas que pour ça, hein, c'est pour tout ce que ça représente, les droits télé sur 4 ans, sur le dernier appel d'offres, sur celui de Mediapro, sur les droits des sur l'argent qui a été mis sur la table pour la Ligue des Champions. Tout ça c'est quand tu vas en Coupe d'Europe, tu touches de l'oseille. Un truc qu'on n'oublie jamais de dire, les primes de fin de championnat, elles sont quand même conséquentes. Quand tu finis au classement troisième, deuxième ou champion, le champion il prend 20, le troisième, pourquoi la bataille pour le podium elle est aussi importante au-delà de la Ligue des Champions, tu prends quasi 15 millions de droits télé en primes supplémentaires. Il y a, tu sais, le barème, là, Gilbert, t'en parles souvent, là, quand tu finis cinquième. Oui, ouais.
Alors, il y a des positions. Pour le PSG, l'OM, c'est 17 millions quasiment. Voilà. Et il y a des positions. Si c'est Rennes, par exemple, ça serait.
Il y a des positions où ça compte pas. Je veux dire, entre le dixième et le dixseptième, là, il y a quasi, c'est des petites différences et tout. Mais au-dessus, c'est important. Dès que t'es dans les six premiers, il y a des choses qui sont importantes.
J'aimerais qu'on conclue.
Faut pas balayer d'une main les droits télé. Enfin, c'est vital pour les clubs.
J'aimerais qu'on conclue avec Sofiane, au 32-16, qui est avec nous. Salut, Sofiane.
Salut l'équipe.
Salut. Alors tu nous as écouté, comment tu te positionnes toi? Quel est ton avis?
Bah moi rapidement Gilbert, je vous ai écouté, en fait je voulais revenir sur ce que tu as dit sur quand tu parles de l'omnipotence du Qatar sur le football français en fait.
Ouais.
Et moi l'analyse que j'aimerais en fait si tu veux faire par rapport à ça, c'est que ça s'inscrit si tu veux dans une incompétence globale des présidents et surtout si tu veux dans une incompétence à différents échelons. C'est-à-dire qu'en France déjà, si tu prends la fiscalité, le problème qu'on a des ultras, et là le dernier point que je voulais aborder, c'est-à-dire que la démagogie de la plupart des présidents de Ligue 1 qui nous vendent à la longueur de journée un football entre guillemets populaire, moi je sais pas ce que ça veut dire, un football de pauvre en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui forcément on est dans de belles paroles en l'air, mais qui n'ont aucune réalité concrète dans l'évolution et dans la progression du football français.
Tu veux dire que les présidents n'ont pas été assez bons pour se débrouiller tout seuls, donc heureusement que le Qatar est arrivé, maintenant on est dépendant du Qatar, c'est ce que tu es en train de dire.
Mais c'est exactement ça, mais le pire c'est qu'à l'époque, quand le Qatar vient parce qu'il y a quand même le lobbying du président de la République, à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui fait en sorte que le PSG vienne, il y a la convention fiscale de l'État français avec le Qatar. Tout ça, ça a fait en sorte que le Qatar est venu et a mis ses billes et a sauvé la Ligue 1. Mais s'il n'y a pas tout ça, c'est pas dit que le Qatar vienne. Parce qu'à l'époque, au PSG, il y avait le problème en plus avec le plan Le Prou. Il y avait aussi le problème des ultras. On a fait le ménage à Paris. Mais avant tout ça, le Qatar est venu. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis supporter de Marseille. Et moi, à longueur de journée, je me plains du fait qu'on peut pas développer un club à Marseille, justement parce que on a eu des directions qui, à force de vouloir nous vendre un football de pauvres, un football populaire, on a fait de notre football un pauvre football et un football pauvre. On n'a aucune progression sur la durée. Et moi, c'est ça le problème.
Mais Sofiane, parce qu'on n'a pas d'investisseurs qui viennent prendre les clubs. Ceux qui viennent, c'est parce que du trading. Ouais, mais
c'est ce que Sofiane dit, c'est que c'est pas attractif aussi.
Non, mais je dis, il a raison, Sofiane. Il a raison. Et là où il y a eu erreur, et ça, c'est vrai, faut le dire. Quand on a considéré que le fait que le PSG ait beaucoup d'argent, ça pouvait ruisseler sur les autres, ça a ruisselé en termes de droits télé parce que ça a permis de faire rentrer de l'argent. Mais pour le reste, non. Vu que les autres clubs ne se sont pas développés et n'ont pas bien utilisé cet argent, effectivement, le fossé s'est creusé et est un championnat où on connaît déjà le champion. Et effectivement, les autres ont l'impression de ne pas tirer profit sportivement. Mais je le répète, sportivement, il y a très peu de projets qui sont développés. C'est beaucoup de trading. Et sans l'oseille des droits télé, alors là, la Ligue 1, sans le PSG, mais c'est la Belgique, c'est cher à Jérôme Bretagne. Hein.
Dans quelques instants, on est de retour. D'autres réactions, si vous voulez, au 32-16. Et puis, on partira en Italie avec Simone Rovera. L'after continue jusqu'à minuit. Remercions Sofiane au 32-16. Salut Sofiane, à bientôt.
Salut, merci les gars.
Ciao.
Ciao Sofiane.
RMC. L'after foot.